et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Jeanlin Lacapelle. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député européen, délégué national du Rassemblement national. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce soir, l'Euro de football avec le match France-Allemagne. L'équipe des Bleus a décidé de poser un genou à terre avant le coup d'envoi. Ils veulent protester contre les discriminations. Et vous, vous avez tweeté aujourd'hui que ce geste était une honte. Pourquoi vous considérez ça honteux ?
Écoutez, je trouve ça un petit peu désespérant, en effet, que l'équipe de France n'ait pas trouvé d'autre manière de se distinguer. Nous avons eu, rappelez-vous quand même, l'épisode au sein de la Fédération française de football il y a quelques semaines sur l'hymne national avec avec ce rappeur qui était extrêmement contesté. On a aujourd'hui
Youssoufa, pour
exactement Youssoufa. On a aujourd'hui l'équipe de France qui veut s'incliner avec un genou à terre à destination des Black Lives Matter. Et puis quelle est la prochaine étape, si vous voulez? Est-ce que c'est Assa Traoré que l'on veut comme mascotte de l'équipe de France? Parce que moi, je crains bien évidemment que l'équipe de France devienne un support politique. Aujourd'hui, on attend l'équipe de France autre chose. Moi, j'attends l'équipe de France qu'elle porte le maillot de l'équipe de France, qu'elle engage le peuple français.
On pourrait dire ça aussi des artistes qui militent pour des causes.
Oui.
En quoi ça peut être
j'attends. Oui, mais j'attends l'équipe de France qu'elle rassemble, en fait, en quelque sorte. Et j'aurais bien voulu que quand Samuel Paty, par exemple, avait été égorgé ou quand Arnaud Beltrame, par exemple, a été exécuté, j'aurais bien voulu, dans ces moments de communion nationale, j'aurais bien voulu que l'équipe de France ait un geste pour ces gens-là. Ils ne l'ont pas eu. Aujourd'hui, ils sont en train, alors qu'on leur demande de porter le maillot de l'équipe de France, qu'ils engagent le peuple français, ils sont en train finalement de diviser la France. Et on le voit, la polémique depuis ce matin qui n'arrête pas d'enfler. Et la démonstration, elle ne rassemble pas et qu'elle est en train de diviser.
Vous dites que vous attendez de l'équipe de France qu'elle rassemble, mais la lutte contre le racisme, ça n'est pas une cause qui rassemble ou qui devrait rassembler ?
Mais je ne crois pas que le symbole soit là. Bien évidemment, on est tous d'accord pour lutter contre le racisme. Et personne, je crois, aujourd'hui est capable et a envie de ne pas combattre le racisme.
Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas dépasser le geste ? Parce que c'est le genou à terre, en effet, qui ce geste est survenu dans la foulée de
mais vous savez, il y a des pays qui ont essayé de pas le faire.
La mort de George Floyd.
La Russie a essayé de pas le faire, la Russie a essayé de pas le faire.
Oui, mais aujourd'hui, c'est un geste qui devient un peu symbolique et qui devient un peu universel. Donc, au fond, pourquoi ne pas l'accepter ?
Mais vous avez raison, il devient symbolique. Aujourd'hui, il est le symbole. C'est pour ça que la polémique enfle. Il est symbole, finalement, d'une culture américaine importée et d'un système, vous savez, des violences policières américaines. Ce qui s'est passé là-bas, ce crime qui s'est passé là-bas, il appartient aux Américains.
Ça vous a touché, cette histoire, tout de même ?
Mais bien évidemment. Mais en aucun cas, nous sommes en train de cela. Et moi, j'aurais voulu, vous savez, aujourd'hui, qu'on ne parle que de sport, que l'équipe de France porte son maillot, chante la Marseillaise, et qu'elle fasse chanter les Français tout au long de la soirée, avec une victoire au bout. C'est ça qu'on demande aux Français. C'est pas qu'ils supportent un message politique et qu'ils divisent les Français, comme ils le font aujourd'hui.
Alors, mais les accusations de racisme ont longtemps prévalu au Rassemblement national, au Front national aussi. Marine Le Pen tente de gommer, dans le fond, cette image. Est-ce que vous ne prêtez pas, du coup, le flanc au retour de ces accusations de racisme, en contestant ce geste-là, par exemple ?
Je ne crois pas. Je crois qu'honnêtement, ce qu'il se passe aux États-Unis ne nous regarde pas. Et je suis convaincu que les Français sont majoritairement de notre côté là-dessus. Il y a deux choses. En effet, combattre le racisme, c'est une chose.
Est-ce qu'on peut pas dire que c'est une cause universelle et pas seulement ?
Mais c'est une cause universelle. Mais est-ce qu'on
liée
peut
juste, aux États-Unis ?
Est-ce qu'on peut juste avoir une petite parenthèse et pendant qu'il y a un moment de sport, qui est un moment de communion, qui doit être un moment de cohésion, est-ce qu'on peut éviter de politiser les choses ? Et on voit bien que chaque geste est politisé. On voit bien quand Monsieur Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, était prêt à s'agenouiller par terre, il avait donc mis bien évidemment un symbole politique en disant je suis prêt moi à soutenir bien évidemment ceux qui sont victimes du racisme et je suis finalement en quelque sorte sponsor du mouvement Black Lives Matter. Et bien, c'est de la même manière. L'équipe de France, en le faisant, elle imite M. Castaner et elle crée une division. Je crois que ça n'est pas bien aujourd'hui.
Donc ça n'est pas le fait que ce soit les footballeurs de l'équipe de France qui défendent cette cause, qui vous gêne. Ça n'est pas la cause en elle-même. C'est le moment choisi pour le faire. C'est plus ça.
Non, il y a deux choses. La cause, elle ne nous regarde pas. Elle regarde les Américains. Nous
avons suffisamment de problèmes de notre côté. On peut se sentir solidaire éventuellement de quelque chose qui s'est passé loin de chez soi.
Mais bien évidemment, mais moi je suis le premier à m'incliner devant devant ce monsieur qui a été étouffé pendant 20 minutes par un policier. L'acte est pas acceptable, il est condamnable. Mais les choses sont claires. Mais c'est pas pour ça qu'il faut créer une ambiguïté, essayer de comparer, comme certains ont essayé de le faire, essayer de comparer ce qui s'est passé aux États-Unis avec les méthodes de nos forces de l'ordre en France, qui n'ont rien à se reprocher. Jamais il est arrivé quelque chose comme cela en France. Et on voit bien quand même que le terrain glissant, et on voit bien que la comparaison n'a pas été loin. C'est ça que je veux éviter aujourd'hui. Et
est-ce que vous dites alors que les violences policières en France n'existent pas ? Ou le racisme lié à des violences policières ?
Alors, les violences policières ne sont pas systémiques. Je vais vous répondre clairement. Donc les ambiguïtés au plus haut niveau, notamment de celle du chef de l'État, quand il parlait de manière assez ambiguë, justement, de ces violences policières, il n'y a pas de violences policières. Il peut y avoir des policiers violents. Et ils doivent être condamnés. Il y a des procédures pour cela. Jamais, d'ailleurs, dans la fonction publique, jamais, autant que les policiers, des fonctionnaires publics, ont été poursuivis pour des actes ou pour des dérapages. Donc les choses, elles sont traitées et parfaitement bien traitées. Mais j'ai totalement confiance, comme l'ensemble d'ailleurs des Français, confiance dans nos forces de l'ordre qui font un boulot monstrueux, qui au péril de leur vie, et on l'a vu ces derniers jours, au péril de leur vie, exercent leur mission de manière difficile. 23 blessés par jour chez nos policiers, 23 blessés par jour. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, eux, c'est qu'on les reconnaisse, c'est qu'on les soutienne matériellement, moralement. Et c'est ça que j'attends de la part de l'État. Certainement pas qu'on crée des ambiguïtés dans des déclarations.
Vous considérez qu'ils ne sont pas soutenus aujourd'hui ?
Oui, moi je crois que l'État... Mais l'État ne les soutient pas assez. On ne les soutient pas assez...
Le ministre de l'Intérieur,
dans les effectifs. On ne les soutient pas assez matériellement, on ne les soutient pas assez moralement. Quand aujourd'hui, quelqu'un qui agresse un policier ressort du palais de justice libre avec un rappel à l'ordre, ça n'est pas normal. Quand Emmanuel Macron est giflé l'autre jour, quand l'auteur de cette gifle est condamné de manière sévère, je trouve ça normal. Mais je crois qu'il faut l'être de manière aussi sévère pour toutes les personnes détentrices de l'autorité publique. Il y a 85 personnes par jour détentrices de l'autorité publique. Quand j'appelle ces personnes-là, ce sont bien sûr des pompiers, ce sont les forces de l'ordre, ce sont des élus, et elles ne le sont pas. Elles ne sont pas de la même manière traitées. La justice à deux vitesses, ça n'est pas bien. Moi, je crois que être condamné pour avoir notamment agressé une personne de l'autorité publique, ça doit être très sévère. Je suis pour cela, pour les peines planchées. C'est d'ailleurs ce que les forces de l'ordre réclamaient.
Alors, les forces de l'ordre pourraient avoir du travail à nouveau ce soir, puisque le match de l'équipe de France se termine à 22h50 et que si la France gagne, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques manifestations d'enthousiasme, voire quelques débordements. Le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de tolérance, un peu de mansuétude, mais pour l'affaire de quelques minutes, puisque le couvre-feu reste imposé à 23h. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu peut-être faire une exception, comme ça a été fait pour Roland-Garros, ou bien purement et simplement en finir dès maintenant avec ce couvre-feu ?
Je crois que vous posez la bonne question. Cela fait 18 mois que les Français ont subi tout de même des restrictions difficiles, ont été en partie en prison, en quelque sorte, parce que le couvre-feu et le télétravail, c'est pas simple à vivre. Ça fait 18 mois qu'ils obéissent à une discipline et ils le font de manière exemplaire. Cela fait 18 mois que beaucoup de commerçants ont fermé la porte sans se demander toujours pour quelles raisons ils étaient cette mesure un petit peu d'ajustement de temps en temps. Cela fait 18 mois aussi que nous subissons la gestion catastrophique du gouvernement avec, je le rappellerai rapidement, le fiasco quand même des masques, le fiasco des tests, le fiasco des vaccins dont nous ne sommes pas encore sortis.
Il y a une étape qui n'est pas un fiasco, c'est ce qui se passe depuis maintenant 2 mois. Quand Emmanuel Macron a décidé de déconfiner par étapes contre l'avis de nombreux scientifiques, jusqu'à preuve du contraire,
enfin,
ça se passe bien.
Enfin, nous sommes les derniers.
Mais là, vous pouvez dire qu'il a eu raison.
Mais il avait raison, bien évidemment. Mais les Anglais avaient déconfiné, les Espagnols avaient déconfiné, les Italiens avaient déconfiné, les Grecs avaient déconfiné. Tout le monde déconfiné.
Enfin, déconfiné, reconfiné.
Non, les Allemands ont déconfiné, reconfiné, les autres ont déconfiné.
Les Anglais la repoussent, enfin, vous voyez, c'est pas uniforme.
Heureusement qu'aujourd'hui, bien sûr, le déconfinement se passe bien, mais il était temps. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut maintenant que les Français retrouvent un peu de liberté. Je crois qu'il faut qu'ils retrouvent aussi leur respiration. Et pour cela, il faut peut-être qu'on leur retire le masque, au moins à l'extérieur. Je crois que ce serait une bonne chose, parce qu'il y a deux choses que les Français se demandent aujourd'hui. À quoi sert le masque à l'extérieur ? Et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes médicaux se posent la même question. Et deuxièmement, à quoi sert le couvre-feu à 23h par rapport à un couvre-feu qui aurait lieu à 1h du matin ?
Vous parliez de l'échec de la vaccination. Vous considérez que c'est un échec aujourd'hui ? Parce que le calendrier a été tenu, la maladie a baissé en intensité. Est-ce que là, c'est pas une...
Alors, madame, oui, alors le calendrier est tenu. Le calendrier, les objectifs du gouvernement étaient tenus. Et vous savez, c'est comme si j'ai 4 enfants. Oui. C'est comme si j'avais demandé à mes enfants d'avoir 8 de moyenne à une note dans une matière et qu'il obtient 8 ou 9, eh bien, l'objectif serait atteint. Mais nous sommes aujourd'hui, en termes de vaccination, au sein de l'Union européenne, 19e, je dis bien 19e sur 27 pays, hein, sur la deuxième dose, et nous sommes 11e sur la première dose. Et moi, je vais vous refaire l'histoire, et ça va durer 30 secondes, parce que je suis député européen, et je l'ai vécu en direct, et comme je suis membre de la commission protection des consommateurs, je m'y suis parfaitement impliqué. Nous avons été mauvais dans la négociation en amont, parce que nous avons d'abord choisi des gens qui ne savent pas négocier, d'autre part, nous avons choisi une mauvaise clé d'entrée qui était le bas prix. Eh bien, à force de vouloir choisir le bas prix et de se faire plus beau que la mariée, eh bien, finalement, nous sommes retrouvés les derniers servis.
Oui, mais souvenez-vous quand même la mauvaise manière d'AstraZeneca, du laboratoire AstraZeneca, faite à l'Union européenne, puisque les doses qui devaient être fournies ont été
diffusées en Angleterre.
Pardon.
On n'a pas signé de contrat commercial. On a signé des intentions d'achat. Les Britanniques ont signé avec AstraZeneca des contrats commerciaux. Un contrat commercial, j'ai vécu pendant 25 ans, vous savez, dans les boîtes de la grande distribution, donc je sais ce que c'est de négocier. C'est un contrat avec des délais de livraison, avec des quantités fixes et avec des pénalités de retard si vous ne livrez pas. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste dit, ce serait quand même bien que vous nous livriez 300 millions de doses.
C'était une première pour eux, pour l'Union européenne, puisque la santé ne figure pas dans les compétences.
Oui, mais écoutez, quand on veut s'approprier la santé, quand il y a eu, rappelez-vous, le fiasco donc des masques que je citais tout à l'heure et des tests, rappelez-vous l'Union européenne qui a dit, de manière un peu arrogante, nous allons vous protéger et nous allons nous approprier cette... Et nous allons créer une grande Europe de la santé. Ils ne l'ont pas créée. Donc nous avons été victimes de ce fiasco parce que nous avons délégué à l'Union européenne cette négociation des vaccins. Mais il y a aussi également une responsabilité de la part du gouvernement français, c'est dans l'exécution. Nous avons été très mauvais dans la partie logistique. Aucun vaccinodrome au départ.
Dans les premières semaines.
Aucune. Mais bien sûr, on aurait dû déléguer ça à des gens de la grande distribution ou à des militaires, comme les Allemands l'ont fait, par exemple, hein, à des spécialistes qui peuvent décliner une stratégie de vaccination de manière efficace. On n'a pas su le faire. On est responsable.
Vous qui êtes patriote, vous aimez la France, etc. Mais vous ne cessez de dire depuis que vous êtes là que tout ce que fait la France. C'est pas bien par rapport, vous citez tous les pays, l'Italie c'est mieux, l'Allemagne c'est mieux. Est-ce que c'est très patriote de dire cela ?
Moi, vous savez, je suis factuel.
Vous ne tirez pas contre votre
je regarde les résultats. Je regarde les résultats. Nous sommes 11e, je le disais, en Europe, sur la première dose injectée, 19e sur la deuxième dose. Oui, je regarde juste cela. Nous sommes en retard alors que nous sommes la 6e puissance mondiale. Moi, vous savez, je pose une question. Pourquoi nous n'avons pas acheté le vaccin russe Sputnik ? Je l'ai demandé. Je l'ai formulé de nombreuses fois au Parlement européen. Monsieur Breton, Thierry Breton, commissaire européen, n'a pas daigné le faire. Pourquoi ? Pour des raisons idéologiques, bien évidemment.
Pensez vraiment que ce vaccin était l'otage de considérations diplomatiques ?
Bien évidemment. Mais ça a été dit par monsieur Le Drian, notamment. On l'a bien compris.
Moi, j'ai dit qu'a priori, on va pouvoir s'en passer.
Mais il nous a dit, on nous en passera.
On pourrait imaginer plus explicite.
Écoutez, aujourd'hui, nous avons vacciné que 25 personnes avec les deux doses en France. C'est extrêmement faible. Quand on sait que les États-Unis, c'est le double. Quand on sait que la Grande-Bretagne, c'est le double. Même la Hongrie, chez nous, qui a pris Sputnik. La Hongrie. Dans l'Union européenne, c'est le double. Israël, c'est 60%. Nous sommes, franchement, la risée
Israël
du monde.
Israël a fait le choix de payer cher les doses.
Mais vous savez, quand on est en guerre, quand M. Macron vous dit « nous sommes en guerre », eh bien, on utilise des moyens et on est prêt à mettre le prix. Moi, pour protéger les Français, je me fous du prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité et la livraison des produits. On n'a pas été capable de le faire, on est mauvais.
Un mot sur la présidentielle qui arrive à grands pas. Il y aura les régionales, bien sûr, le week-end prochain. Est-ce qu'il est question d'une... Enfin, Éric Zemmour, donc le polémiste d'une chaîne concurrente et qui travaille au Figaro notamment, fait planer, on va dire, une forme d'ambiguïté sur sa candidature. Est-ce que c'est de nature à mettre Marine Le Pen en colère ?
À qui profitait le crime ? Je vais vous poser cette question-là.
Bah, en fait, ça peut faire des réserves de voix au deuxième tour pour Marine Le Pen.
Si moi, je pense qu'Éric Zemmour est d'abord un bon journaliste, c'est un bon polémiste, c'est un... Et je crois que personne ne remet en question le talent qu'il a. Mais entre, vous savez, cette profession qui est d'être la sienne, il anime parfaitement bien son émission tous les soirs, et entre celle d'être un candidat à l'élection présidentielle avec un projet cohérent, avec un projet global, et de pouvoir recueillir plus de 50% des Français au second tour, il y a une grande différence. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut rassembler le camp national et surtout pas le diviser. Et je crois qu'Éric Zemmour, et je le crois suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans ce piège-là, car finalement, il rendrait service, on le sait très bien, Emmanuel Macron, en empêchant peut-être Marine Le Pen d'accéder au second tour. Je crois que ce ne serait pas bien pour l'avenir du pays.
Il y a quelques jours, dans une interview à un site d'information réunionnais. Marine Le Pen a évoqué cette question d'une hypothétique candidature d'Éric Zemmour et elle a dit « Je redoute que les propos très radicaux d'Éric Zemmour ne soient assimilés aux miens et que donc ça me fasse du tort. Pourquoi les propos d'Éric Zemmour pourraient-ils être assimilés à ceux de Marine Le Pen ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont proches ? Ou est-ce que c'est parce que les gens ne comprendraient pas bien ? Parce qu'a priori, ils ne se ressemblent pas l'un et l'autre.
Le fait de me formuler cette question-là, vous avez donc vous-même déjà intégré le fait qu'il peut y avoir une proximité idéologique. Sinon, vous ne m'auriez pas posé cette question-là, en termes de compétition. Ce que Marine Le Pen a souhaité dire, c'est que, oui, il y a des divergences entre Éric Zemmour et elle, notamment sur l'islamisme, bien sûr. Vous savez, nous sommes... Enfin, quand Éric Zemmour dit que l'islam est totalement incompatible avec la République, nous ne partageons pas la même chose. Nous estimons qu'en effet, ceux qui placent la charia avant les lois républiques sont incompatibles. Nous estimons que les islamistes radicaux sont incompatibles. En revanche, il y a beaucoup de musulmans en France qui vivent depuis de longues années extrêmement bien, de manière modérée, de manière extrêmement intégrée, de manière extrêmement silencieuse, et qui eux...
Donc vous dites qu'il est plus dur, en gros, que Marine Le Pen.
C'est pas qu'il est plus dur, je crois qu'il est moins juste. Je crois qu'il est surtout moins juste, parce qu'honnêtement, on ne peut pas mettre dans le même sac l'ensemble des musulmans. Il y a des musulmans modérés, et puis il y a l'islamisme radical. Celui qui veut aujourd'hui renverser notre civilisation, celui qui aujourd'hui nous fait la guerre, celui qui tue, celui qui, celui qui a exécuté un certain nombre de nos concitoyens, eh bien écoutez, celui-ci, nous le combattons. Et celui-ci n'est pas compatible avec la République. En revanche, il y a beaucoup de musulmans en France, je rappelle comme c'est la deuxième religion en France, il y a beaucoup de Français musulmans en France, modérés, qui vivent très très bien leur religion en nous, et qui sont d'ailleurs très dérangés par ces islamistes. Voilà un point de divergence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen.
On s'emploie au Rassemblement National à dissuader Éric Zemmour de se lancer dans cette aventure. Marine Le Pen ne fait pas mystère du fait qu'elle l'a appelé, d'ailleurs. Est-ce qu'on travaille à cela ?
Non, sincèrement. Et on n'y croit pas.
On ne lui promet pas un poste de ministre ?
Non, on n'y croit pas. Ouais. Voilà. Vous savez, il n'y a jamais eu de sondage qui a été réalisé. Hein. Le seul sondage qui a été réalisé, c'est Éric Zemmour sans Marine Le Pen, sans Dupont-Aignan. Ouais. C'est 13%. Et vous allez voir le prochain sondage qui aura lieu avec Éric Zemmour et Marine Le Pen et Dupont-Aignan. Vous verrez quand il aura 2 ou 3% dans ces sondages. Et je ne veux pas du tout être méprisant. Je veux juste dire qu'on ne peut pas s'improviser candidat à la présidence de la République. Marine Le Pen, ça fait des années qu'elle travaille là-dessus, qu'elle a un projet global, un projet qui concerne l'identité, mais qui concerne la protection sociale, économique, politique des Français. Et que ce projet...
Un meilleur projet qu'en 2017 ?
Mais elle aura un meilleur projet en 2017, mais surtout, elle a cette capacité à pouvoir...
Quand 2017 il nous reste 20 secondes, donc là, je suis en train de tomber dans le...
surtout aujourd'hui une capacité à pouvoir rassembler. Oui. On le voit, à savoir rassembler hors de ses rangs. Elle est la candidate de la France, la candidate du Rassemblement National, mais la candidate des patriotes, globalement. Et vous le verrez, elle aura un projet, je crois que les gens l'ont déjà compris, puisque on sent dans les intentions, dans les opinions d'enquête déjà, elle est capable
tomber
de gagner.
Dans le travers de Roselyne. Je pose une question quand il n'y a plus de temps.
Ah bah voilà autre chose.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.